quoi, Robert?
Bonjour, Alexis.
À l'émission, on parle de développement des leaders autochtones d'une formation universitaire.
Avec les HEC et tout ça, c'est assez formidable. Mm-hmm. Et on prépare un nouveau logiciel 3D à l'utilisation de différents domaines, mais pour les autochtones essentiellement. Ça fait des bonnes nouvelles.
Ben oui, ça fait des bonnes nouvelles.
Et déjà avec nous, il y a deux personnes qui sont déjà en soi des bonnes nouvelles.
Oui, on reçoit l'ancienne chef de Gaspeg, Manon Janotte, et Maître Ken Rock, directeur de la Société de développement économique de Wahat Maliotedam.
Bonjour.
Quoi à vous?
Bonjour, quoi?
Quoi?
Hey, c'est une sacrée bonne nouvelle, ça, la mise sur pied de cette institution, je ne sais plus comment l'appeler, une école, un cours, comment on appelle ça?
On appelle ça l'école des dirigeants des Premières Nations.
Ben, c'est déjà pas mal, c'est un beau programme. Hein?
Oui, c'est une école avec plusieurs programmes.
L'annonce a été faite au cercle de développement économique dernièrement.
Effectivement, le 25 novembre dernier, par conférence de presse.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée-là de vouloir faire une école pour les leaders des Premières Nations?
Spécifique, ouais.
Je pourrais peut-être laisser Ken raconter, là, mais ce que Ken... tu sais, dans le fond, je pense qu'on avait tous... la volonté d'avoir une institution comme celle-là, puis dans la petite histoire que Ken m'avait déjà racontée, c'est qu'il était, je sais pas, il y a un restaurant à HEC qui s'appelle Le Cercle, et Ken avait déjà eu une discussion il y a quelques années avec des gens de la direction sur justement des programmes comme ceux-là. Je pourrais laisser Ken expliquer plus profondément. Et je pense que ça l'a fait le chemin dans la tête de HEC à la direction, puis à un moment donné, en discutant, ils ont rappelé Ken, ils m'ont appelé, puis on a commencé à discuter, puis on parlait de mettre des programmes au sein même de l'école des dirigeants de HEC Montréal. Mais en faisant la liste de tous les besoins qu'on avait avec Ken, avec d'autres collègues des Premières Nations, on en a déduit assez rapidement que ça nous prenait une école.
Maître Rock.
Puis comme le mentionne Manon, effectivement, moi, je travaillais déjà pour des communautés sur la Basse-Côte-Nord, à Mamatinouat, en fait, et puis on était en relation avec des gens de HEC Montréal, puis j'étais en discussion avec un leader de HEC Montréal, un dirigeant, puis qui me disait, on intervient partout dans le monde pour des formations qui s'adressent aux dirigeants, et puis pourquoi qu'on ne ferait pas ça dans les communautés? C'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, oui, effectivement, le besoin existait à l'époque, et le besoin n'a pas changé, et puis à un moment donné, dans la dernière année, en échangeant, en discutant, Manon et moi, entre autres, on s'est rendu compte qu'effectivement, le besoin est encore là, puis le partenaire, c'est HEC Montréal. C'est HEC Montréal qui a fait preuve d'une belle ouverture. Et puis quand on dit, vous l'avez mentionné, par et pour les Premières Nations, mais surtout propulsé par HEC Montréal, c'est une institution québécoise centenaire. Il y avait des objectifs à l'origine quand ils ont mis en place HEC Montréal. Maintenant, moi et Manon, on avait une vision parce qu'on sait qu'il y a un besoin dans les communautés. Le besoin est très fort au niveau de la formation des leaders, dirigeants. Manon et moi, on a gradué du MBA à HEC Montréal, l'Université McGill. Puis là, on a constaté assez rapidement que ça prenait quelque chose aussi dans les communautés. Fait que c'est un peu de ça que ça vient, cette idée-là.
Quand vous parlez des leaders, des dirigeants, etc., des administrateurs, on parle de quel type de dirigeants ou de leaders?
Ben, en fait, il y a quatre programmes. Le premier va commencer très bientôt et puis on a commencé par s'adresser aux chefs, grands chefs et présidents de conseils d'administration de sociétés autochtones. Et puis, par la suite, il va y en avoir d'autres, entre autres des entrepreneurs aussi.
Donc, vous commencez par le pouvoir politique et ensuite du pouvoir économique.
Exactement, ça va cheminer, puis il y a quatre programmes en fait qu'on a identifiés à ce moment-ci avec quatre clientèles différentes en fait.
Moi, je ne vous demanderai pas de tout répéter le cours et nous donner le cours en ondes, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre exactement qui va leur être si utile dans leur travail de leader?
Mais dans le fond, les deux premiers programmes, là, sont divisés en quatre modules. Le premier module, c'est d'exercer un leadership authentique, se gérer soi-même. C'est le premier, on commence par le leader. Ensuite, on va dans le module 2 avec diriger avec un mindset collaboratif. On veut bâtir et entretenir des relations constructives ensemble. C'est le deuxième module. Ensuite, le troisième module, c'est influencer le changement collectif. On sait très bien qu'avec l'école, on veut créer un changement. Ben, il faut se donner des outils pour être capable de créer un changement. Et on finit par la gouvernance, comment gouverner avec intégrité et responsabilité.
Vous êtes toutes les deux des universitaires. J'ai eu à faire dernièrement une formation universitaire en droit, puis mon barreau par la suite. Puis, en tant qu'Autochtone, j'ai eu à vivre certaines frustrations par rapport à la formation, les préjugés des fois que les professeurs avaient, le manque de connaissance des réalités autochtones. J'imagine qu'en lançant une école par et pour les Premières Nations, on va essayer d'intégrer des savoirs des Premières Nations, une vision holistique dans la façon de faire des cours.
Absolument. Et c'est pour ça que ce qui nous différencie, là, c'est qu'on est en co-création.
OK.
C'est que tous les modules que je viens de vous nommer, tous les ateliers qui sont dans les modules sont co-créés. C'est qu'un professeur de HEC ou d'une autre université, l'UDM, et éventuellement, il va y en avoir d'autres, avec quelqu'un des Premières Nations d'expérience terrain. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais co-enseigner, si on veut, co-animer un atelier avec un professeur de HEC. Même chose pour Ken et plusieurs personnes des Premières Nations, dont même le chef régional, Justin Picard.
Mmh.
C'est, ce qu'on a voulu faire, c'est de regarder comment ça se passe chez nous, puis s'assurer que si on prend un atelier du courage managérial, par exemple, c'est que comment ça se passe, le courage chez nous, comment on fait ça. Puis, mais avec la formation académique nécessaire. Mais puis, ce qu'on veut, c'est vraiment de regarder la façon qu'on fait chez les Premières Nations. Je ne sais pas si Ken veut rajouter.
Juste pour compléter ce que Manon dit, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a vécu l'expérience du IMBA. Et puis moi, à l'époque, j'ai appris autant des co-participants que des enseignants. C'est ce qui, en fait, c'est un MBA exécutif. Le programme qu'on offre, c'est un programme exécutif. Et les leaders sont là. Et puis, il y a des chefs qui ont des expériences qui pourront partager avec les co-participants. C'est pour ça que ça va être très bénéfique, parce que souvent, même les participants apportent autant que les enseignants eux-mêmes. À titre d'exemple, puis je l'ai mentionné récemment, les Cris ont une bonne expérience avec Hydro-Québec. Les Atikameks ont une bonne expérience dans le domaine de la foresterie. Nous, ici à Ouachette, on a une bonne expérience au niveau des mines. Donc, les meilleures pratiques, en fait, les chefs, les leaders vont pouvoir partager les meilleures pratiques avec les autres dirigeants, les co-participants. Fait que les chefs qui ont moins d'expérience vont en apprendre autant des chefs, mais aussi, évidemment, des enseignants de HEC Montréal et du co-formateur autochtone qui va être là, parce que, comme Manon l'a mentionné, elle va donner des cours. Puis moi aussi, je vais participer. Moi, j'ai une expérience au niveau des négociations, fait que je vais participer avec un professeur au niveau de la formation. Fait que c'est ce qui fait que c'est un programme très particulier.
Est-ce que le fait d'avoir plusieurs nations, ça vient d'un peu partout pour suivre les cours, est-ce que les problèmes sont suffisamment semblables un peu partout pour que les mêmes solutions soient enseignées à tous ces gens-là?
Mais ultimement, on vit tous la même problématique. À une certaine époque, c'était toute la question de l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit la foresterie, que ce soit les barrages hydroélectriques, que ce soit les mines, cette exploitation-là. La base pour les Premières Nations, c'est les droits territoriaux, le titre aborigène, les droits qu'on a sur le territoire. Et puis ça devrait permettre aux Premières Nations de bénéficier de cette activité économique. Et puis, c'est ce qui fait, en fait, le rapport de force. L'affaire, c'est que dans ces programmes-là, en échangeant avec les autres, là, les gens vont être en mesure de voir comment ça s'est fait dans certaines communautés, où sont les meilleures pratiques, et puis, ils vont être en mesure que quand eux vont faire face à des situations semblables, ils vont être mieux positionnés pour dire, regardez, ça s'est fait comme ça dans telle autre communauté. On le sait, il y a des ententes, tout ça. Nous aussi, on veut, parce qu'ici, à Ouachette, nous, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse activité économique, l'exploitation des mines, le fer, en fait, c'est plusieurs millions de tonnes par année. Mais nous, avec le temps, on a développé une expertise. Et puis, notre chef va être en mesure de partager son expérience. Dans le fond, puis les autres communautés, à la base, peuple autochtone, c'est quoi? Ben, c'est le territoire nous appartient. Et puis maintenant, comment on fait pour bénéficier de cette activité économique-là? Ben là, les cours vont aider à mieux outiller les leaders et puis savoir des impacts dans chaque communauté. Puis on le croit sincèrement.
Maître Jeannotte, Madame Jeannotte, Maître Rock, Madame Jeannotte, excusez-moi, je vous ai rendu maître, Madame Jeannotte. On va prendre une petite pause musicale. On vous revient tout de suite après. C'était Innu Earth de le grand artiste Florent Volant.
Manon Jeannotte avec nous et Maître Canrock. Ben, c'est une école nouvelle pour et par les Premières Nations avec évidemment les HEC Montréal. Je vous demande à vous deux, enseigner, là, que ce soit au HEC, à l'Université de Bonn ou avec et pour les Autochtones, est-ce que les méthodes pédagogiques sont spécialement adaptées aux Autochtones?
Oui, ben c'est pour ça, justement, là. On va faire, on think en tête de tipi, comme on dit, là. On va faire ça autrement, hein. On fait ça à l'image des Premières Nations. Ça veut dire qu'on commence la première journée en cercle. Puis quand on dit on fait un exercice en cercle, Là, on essaie de comprendre à HEC que quand c'est en cercle, on est vraiment en cercle. Il n'y a pas de table avec nous, là. Fait que oui, ça va être vraiment à notre image. C'est vraiment nous qui décidons comment on fait l'atelier. C'est pas moi. C'est, mettons, on commence avec, je vais vous donner un exemple. La première journée, c'est l'intelligence émotionnelle et l'exercice d'un leadership authentique. Puis, c'est Justin Picard et Estelle Morin. Ils ont décidé ensemble comment l'atelier va se faire, et l'atelier va se faire en cercle avec un bâton de parole.
Et un bâton de parole, ouais.
Oui, c'est vraiment, l'enseignement a été décidé ensemble, académique et Première Nation, puis ça va se faire de cette façon-là. Chacun des ateliers, c'est vraiment le co-animateur avec l'enseignant qui décide comment leur atelier se fait.
Et pas uniquement dans la façon de placer les chaises en rond ou en carré. Au niveau du contenu aussi, j'imagine.
Absolument.
Qu'on tient compte, oui.
Oui, non, c'est tout, là. C'est pas vraiment... C'est dans nos façons de faire et c'est le contenu. C'est le contenant et le contenu. Et le contenu, c'est eux qui ont décidé ensemble comment... ça pourrait mieux se prêter à, admettons, même les négociations. Comment ça peut se prêter au niveau des Premières Nations? Comment on va l'enseigner? Comment ça se fait? C'est aussi dans le contenu, là.
C'est une formation qui s'adresse au maître Roch, allez-y.
Ben, écoutez, par rapport justement, on parle de négociation. Il y a des principes de base quand même qui s'appliquent en négociation, les rapports de force, comment est-ce que ça se déploie, tout ça. Et puis, c'est sûr qu'il y a une partie académique. On collabore avec des enseignants de HEC Montréal. Et puis, justement, comme le disait tantôt Manon, moi, au niveau de la négociation, je vais participer avec un professeur de HEC Montréal. On se rencontre, on se prépare et puis on partage nos expériences. Nous, ici, à Ouachette, Maliutenam, on s'est retrouvés dans des situations où on a eu à négocier avec des compagnies minières, des ERA, ce qu'on appelle des IBA en anglais, des ERA. Et bien, on va partager notre expérience, certainement, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé dans notre situation à nous, le rapport de force entre la compagnie minière et puis la communauté, comment établir un rapport de force pour être en bonne position pour négocier. Ultimement, il y a des notions académiques qui existent. La négociation, c'est qu'on soit autochtone, qu'on soit non autochtone, peu importe, là, ça suit les mêmes principes, les mêmes règles, mais on va adapter ça en fonction des expériences que des communautés ont vécues. À titre d'exemple, ici à Ouachette-Maritime, nous, on n'a jamais eu peur de prendre des poursuites judiciaires contre les compagnies minières, contre Hydro-Québec. Ça nous a donné un rapport de force plus important encore. Il faut avoir, tu sais, quand on dit que si l'entente ne nous satisfait pas, on prend des moyens judiciaires, ben il faut prendre vraiment ces procédures-là. Autrement, on n'a pas de rapport de force. Les compagnies minières, Hydro-Québec ou les co-contractants vont continuer de pas respecter les Premières Nations. Fait que toutes ces expériences-là que les autres ont vécues, que les co-formateurs autochtones ont dans le cadre de leur travail, bien, ils apportent ça. Mais à la base, au niveau académique, qu'on soit dans le management, les règles de gestion, il y a des règles fondamentales, mais elles sont adaptées en fonction des réalités dans les communautés.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. En fait, je commence à comprendre mieux que je comprenais au début de l'entrevue. C'est que quand vous parlez de l'académique, c'est du savoir qui est universel, peu importe d'où ça vient et à qui on s'adresse. C'est un savoir qui est connu, qui est expérimenté. Mais vous ajoutez à ça le partage d'expérience. Ça, c'est nouveau.
Effectivement.
C'est ce qui est unique, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Effectivement. C'est pour ça qu'on est dans la co-création.
Cette formation, oui.
C'est ça, c'est de la co-création. C'est comment ça se passe chez nous.
Cette formation-là s'adresse à des dirigeants qui sont actuellement des leaders dans leur communauté. J'imagine que ça va pas être une formation à temps plein. Ça va être une formation qui va être donnée à temps partiel, un lundi ou une fois par mois ou aux semaines.
Ben, dans le fond, on a 4 modules. Le premier module étant la semaine prochaine, 9, 10 et 11 décembre. C'est sur 3 jours.
Okay.
Ensuite de ça, on a module 2 et 3 sur 3 autres journées à la fin janvier. On a aussi des formations en ligne entre les modules d'une journée. Puis, on a un autre module, qui est le module 4, en mars, et on termine à la fin avec une journée de retrouvailles, ou module 5, si on veut, en mai à HEC. Parce qu'on se promène, hein? On commence à HEC, on termine à HEC, mais entre ça, on va sur le territoire. On déplace les professeurs d'HEC Montréal dans les communautés.
Ah oui.
Et ça se conclut par une attestation, un papier quelconque, j'imagine?
Oui, une certification universitaire.
Est-ce que tout le monde peut y aller? Est-ce que vous faites un choix parmi ceux qui vont suivre les formations? Est-ce que tout le monde peut demander, ou s'il faut déjà quelqu'un qui est en leadership de pratique ou un chef d'entreprise, il faut absolument avoir préalables?
Il faut être en poste. Il faut occuper un poste, soit de chef, grand chef, président de CA ou d'administrateur. Après ça, on a conseiller chef, là. Faut être élu, il faut être dans un poste d'administrateur et il faut être gestionnaire, soit DG, directeur d'un programme, PDG d'une entreprise. Faut avoir sa propre entreprise quand nous serons rendus au programme entrepreneurial. Il va falloir avoir son entreprise ou être dans une start-up. Et on a aussi la relève, bien entendu, ceux qui aspirent à.
Oui, ça, c'est important de les traiter aussi. Hein?
Ça pourrait être des étudiants en économie, par exemple, autochtones?
Oui, rendu là, je dis, ça va être selon... les critères, c'est vraiment de... Si, admettons, on a un étudiant en économie, ben, est-ce qu'il veut se partir une entreprise? Est-ce qu'il veut occuper un poste de gestion? Il y a quand même un minimum à avoir, là, soit être en poste ou se diriger vers un poste ou ouvrir son entreprise.
J'ai vu dans vos documents que vous écrivez « Notre vision est d'outiller les leaders pour qu'ils guident les communautés vers le changement, la réussite, des éléments incontournables pour l'autodétermination. » On peut-tu préciser?
Ben, écoutez, c'est comme je le disais tantôt, y a des leaders autochtones qui actuellement... constatent qu'ils ont besoin d'outils additionnels pour amener les communautés à un autre niveau, à améliorer les conditions socio-économiques, en fait. Mais là, maintenant, moi, je suis persuadé qu'avec ces formations-là, quand les leaders vont retourner dans leur communauté, là, Manon a parlé tantôt dans les modules des sujets qui vont être abordés au niveau du leadership, au niveau de la collaboration, comment instiller un changement dans la communauté, après ça, les règles de gouvernance, bien ça va certainement avoir un impact positif dans la communauté. Et puis, à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai souvent vu des communautés qui ont réussi dans le passé. À titre d'exemple, les Mi'kmaq à Nouvelle-Écosse, Number Two, une communauté qui a beaucoup de succès au niveau du développement économique. C'est clair que en ayant de bonnes règles de gouvernance, on amène plus facilement des investissements externes à la communauté et des partenaires. À partir du moment où les conseils sont bien gérés, les conseils sont avec de bonnes pratiques de gouvernance, c'est beaucoup plus facile d'avoir une crédibilité pour aller chercher des investisseurs externes à la communauté qui vont amener un impact positif, qui vont amener ultimement plus d'emplois, plus de développement économique, plus d'emplois, moins de sécurité du revenu, moins de sécurité du revenu, plus d'emplois, moins de problèmes sociaux. Ultimement, ça va amener les communautés à un autre niveau. Ultimement, c'est quoi qu'on veut? On veut améliorer les conditions socio-économiques des membres des Premières Nations, des communautés. Fait que moi, je pense que ce programme-là, on le croit sincèrement, ça va amener ce changement-là, ça va aider les communautés.
Manon Jeannotte, Kenrock, voilà une initiative qui est sûrement formidable. Vous avez eu brièvement, en terminant, des embûches à surmonter pour y arriver?
Pour la création d'école, vous dites?
Oui.
Ben, ça a été relativement bien. Je ne sens pas qu'on a eu d'embûches. C'est sûr que c'est du travail à faire. Ça fait un an qu'on y travaille. Il y a des gens qui pensaient que ça faisait 5 ans. Non, ça fait seulement un an. Et je trouve qu'en un an, on a fait beaucoup de progrès. Et c'est sûr que ça nous prenait du financement, mais on a tout fait converger ensemble. Et moi, je sens pas qu'on a eu d'embûche, Ken. Je sais pas de ton côté.
Bon, ben, tant mieux. Et merci pour votre présence à l'émission aujourd'hui. Bravo, hein?
Merci
à vous.
I'm unapologetic. I meant it when I said it. I'll say it once again just because I don't regret it. I hit you with the factible, makes you get reactable. Pull up on me with your whole force tactable. My words are not retractable, your media is lackable. Of the truth and facts, but we know that's just what happens though. Revolution, the situation. Like coronavirus, there's no vaccination. Your racism, police defund. Power to the people, yeah, that's what we want. I know that you can see me through the scope of your gun. East coast to west coast, the war's begun. Get off your high horse, you better strike back. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Rise up, my nation, baby, front to the back. Get off your high horse, you better strike back. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Rise up, my nation, baby, front to the back. I hurt your white fragility, destroyed your white supremacy. Now you wanna get at me, you've got no ability. You're gonna need auxiliary, firepower, weaponry. If you wanna threaten me, I'll put your life in jeopardy. And what's with the stretchery? Police report discrepancy. Let me be what you see, forget about the memories. You think your hands are clean with this COVID-19? More murders now than we ever did seen. Cops kill our people, it's a normal routine. And they'll shoot you too if you try to intervene. Chantel Moore, Rodney Levi, tell me how many natives got to die. Get off your high horse, you better strike back. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Rise up, my nation, baby, front to the back. Get off your high horse, you better strike back. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Rise up, my nation, baby, front to the back.
Good evening and thank you for joining us. We begin in New Brunswick, where for the second time this month, police have shot and killed an Indigenous person.
48-year-old Rodney Levi was taken to hospital where he later died.
The government in New Brunswick has launched a coroner's inquest into the death of Chantel Moore. The Indigenous woman was shot and killed by police in New Brunswick who were asked to check in on her well-being.
Get off your high horse, you better strike back. Yeah. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Rise up, my nation, baby, front to the back. Yeah. Get off your high horse, you better strike back. No time to question, baby, no time to ask. Get off your high horse, they're on the attack. Yeah. Rise up, my nation, baby, front to the back.
C'était High Horse de l'artiste Quentin Kondo, connu sous le nom d'artiste de Q052.
Intéressant cet écho-là, hein? Par et pour les Autochtones. Là, pour le moment, c'est pour les dirigeants, les leaders, etc., les chefs d'entreprise. Peut-être qu'un jour, ils vont agrandir pour permettre à certaines autres personnes d'y arriver à ces postes-là.
Le plus d'outils qu'on va avoir pour réussir à avoir notre autonomie gouvernementale, le mieux ça va être. Puis je pense que ça prend des initiatives comme ça qui viennent d'Autochtones.
Vous écoutez Koué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwat.
Et on est tous les deux contents de rencontrer du bien beau monde aujourd'hui.
Ben oui, là on reçoit le propriétaire, le dirigeant de l'entreprise Awastoki, qui se spécialise dans le 3D, Alexis Gros-Louis Hull. Quoi?
C'est pas juste un administrateur, mon cher. Bonjour.
Non,
c'est un artiste.
C'est un artiste.
bonjour, merci de me recevoir.
Ben, ça fait plaisir.
Oui, à vous. Donc, vous avez travaillé longtemps dans le domaine du jeu vidéo à Québec, à ce que j'ai pu lire.
Oui, ben c'est ça. Moi, là, dans le fond, j'ai vraiment un background professionnel dans le jeu vidéo. Là. J'ai travaillé là-dedans. Là. J'ai commencé officiellement en 2013, mais ça remontait un peu avant ça, là, que j'avais fait des contrats dans ce milieu-là. Et puis, depuis ce temps-là, là, j'ai cumulé des expériences professionnelles en entreprise de jeu à Québec. Mmh. Et puis, par la suite, on a décidé de se lancer à notre compte, ma conjointe et moi.
Je suis un peu gamer. Vous avez travaillé sur quel jeu, par exemple?
J'ai travaillé, je dirais, beaucoup plus sur des jeux mobiles.
Okay.
Donc, probablement que ça serait un petit peu plus difficile à identifier à ce niveau-là. Mais, tu sais, beaucoup des jeux mobiles, des expériences que c'était des jouets connectés, des choses comme ça. Donc, on a travaillé entre autres sur des jeux de Lego là, dans le temps pour les clients Lego, avec des jouets connectés.
Alexis, jouer comme ça, est-ce que c'est ça qui donne une formation puis qui donne le goût de devenir un professionnel du jeu vidéo? Avez-vous passé votre enfance devant une télévision? Hein?
J'ai quand même joué beaucoup à des jeux vidéo dans mon enfance. Ouais. Oui, effectivement, c'est ça qui m'a donné... C'est ça qui m'a donné la piqûre, je dirais. Par contre, je me suis rendu compte assez rapidement quand j'ai commencé mes formations que ça prend beaucoup, beaucoup de travail et de dévouement pour être capable d'en faire une carrière. Ça demande beaucoup de connaissances artistiques quand on veut être un artiste 3D. Mm-hmm. Ça demande aussi beaucoup de connaissances techniques, donc plusieurs logiciels, plusieurs façons de travailler. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'années et beaucoup de dévouement.
C'est comme passer du fait d'être amateur de magie à devenir magicien. Hein?
Absolument.
La magie se reproduit en 3D ici.
Donc, vous avez fondé une compagnie qui s'appelle Awastoki, c'est ça?
Ça veut dire quoi, Awastoki?
Awastoki, ça veut dire bel esprit. C'est mon prénom, Wendat.
Okay.
C'est un drôle d'adon, en fait, parce que quand on s'est lancé à notre compte, on cherchait un nom d'entreprise et puis... Par un drôle d'adon, ça fait que la vision de l'entreprise pouvait fonctionner avec mon nom, Wendat. Donc, on a décidé d'y aller pas plus compliqué que ça. On est bien content aussi d'avoir eu la chance d'avoir ce nom-là.
Vous êtes situé à Wendake?
Oui, exactement. On est à Wendake. Ça fait maintenant 3 ans. Là, présentement, nous, on a des bureaux dans notre maison là, à Wendake.
C'est important pour vous de vous situer dans votre communauté?
Absolument. Moi, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a intéressé. Puis moi, ce qui est particulier, c'est que même si je suis Wendat, je suis pas originaire de Wendake en tant que tel. Moi, j'ai été élevé aux îles de la Madeleine par deux parents médecins. Donc, j'ai vécu loin de ma communauté pendant une bonne partie.
C'est déjà une nation à part aux îles de la Madeleine.
Absolument, absolument. Et puis moi, dans le fond, quand je suis venu à Québec en 2006, ça fait déjà un petit bout, quand je me suis lancé à mon compte, par la suite, j'ai décidé d'aller vers Wendake parce que mon entreprise a pour but, à moyen long terme, de s'impliquer un peu plus dans les communautés des Premières Nations.
Mais parlons un peu de l'entreprise puis du produit que vous voulez faire. On parle de jeux vidéo, là, c'est facile à parler de ça, de jeux vidéo. Mais vous allez beaucoup plus loin que ça. Là. C'est du 3D pour des usages parfois médicaux, sociaux, scientifiques, là.
Absolument. Ça sort un peu de l'ordinaire, étant donné que la majorité des gens qui vont se lancer en affaires dans les milieux du divertissement interactif comme la 3D, souvent vont, comme vous le disiez, se lancer en un studio de jeux vidéo. Souvent, dans un studio de jeux vidéo, on a des expertises programmation, design d'interface, animation, création 3D, etc. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment plus focusser sur nos forces. Ma conjointe et moi, on a une formation en 3D. Elle est allée au cégep à Limoilou. Moi, j'ai fait le collège Barthes à Québec, puis l'Université Laval dans ce milieu-là. Et puis, pour nous, on voulait vraiment se focusser sur nos forces et sur notre expertise. Et c'est assez pointu comme expertise, mais n'offrir qu'inclusivement de la création 3D. Comme vous dites, là, on commence à s'impliquer dans des choses qui sortent du jeu vidéo. Oui, on a beaucoup de clients dans ce milieu-là, mais on a des clients dans l'imagerie médicale. Et puis là, plus récemment, on essaie de s'impliquer au niveau de la muséologie, entre autres, des expériences interactives de visites de musées ou plus particulièrement en ce moment, on travaille sur une visite d'une maison longue avec une université en Ontario. Donc c'est des projets qui nous intéressent beaucoup là aussi.
Vous rejoignez le patrimoine Wendat avec votre expertise en 3D.
Absolument.
Donc, puis sinon, vos clients, c'est les jeux vidéo, comme vous avez dit. Est-ce que vous pensez vous-même développer des jeux vidéo éventuellement?
Nous, on veut vraiment offrir ce qu'on appelle dans le jargon du servicing. Donc, en tant que tel, on ne veut pas développer nos jeux vidéo particulièrement de notre côté, mais on veut offrir nos services, comme je peux dire en bon français, on veut choisir nos clients. Et puis là... étant donné que l'entreprise est en croissance, on peut de plus en plus choisir nos clients et choisir les projets sur lesquels on veut travailler.
Donnons un exemple, Alexis. Disons, je suis architecte et j'ai un projet de développement d'un building ou d'un centre d'art, etc. Je m'en vais vers vous et avec mes plans, je vous demande d'en faire une version 3D pour mieux expliquer à mes clients ce que ça va avoir l'air. Est-ce que c'est ça?
Oui, entre autres, c'est le genre de choses qu'on est capable d'offrir. Nous, étant donné que notre expertise est en 3D vraiment pointue, on est capable d'aller dans plusieurs champs d'activités différents. Donc, comme on l'a dit précédemment, jeux vidéo, mais l'architecture, des expériences en muséologie ou en scan 3D pour de la préservation de patrimoine, des expériences. Plus récemment, j'ai travaillé entre autres sur une statue qui s'est retrouvée au centre Vidéotron d'un joueur de hockey des Nordiques qu'on a recréé virtuellement, qui a été imprimé en 3D pour par la suite être moulé et coulé dans en aluminium, si je me trompe pas. Donc, on est capable d'utiliser la technologie dans des divers champs d'activité. C'est ça qui rend ça aussi intéressant.
Oui, c'est pas uniquement ludique. Hein. Ça peut être extrêmement technique même comme travail.
Absolument. C'est quelque chose qui est en train de se développer aussi. Puis, c'est sans limite là, pour l'instant. Moi, je suis assez passionné par ce que je fais.
En ce moment, vous avez comme objectif d'attirer des Autochtones, des jeunes Autochtones vers la 3D. Est-ce que vous voulez le faire par le moyen de stages, par des visites dans des écoles? Comment vous y prenez pour réaliser cet objectif-là?
Ben moi, c'est sûr que c'est quelque chose, justement, comme je disais, étant donné que l'entreprise est en croissance, que je peux commencer à mettre plus d'efforts dans les choses qui me tiennent à cœur, si je peux dire. Donc, effectivement, moi, j'aimerais ça encourager les jeunes des Premières Nations à aller vers ce milieu-là, entre autres par la préservation de patrimoine. Tu sais, qu'il y a moyen d'allier culture et technologie pour faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Et puis, c'est sûr que là, nous, pour l'instant, on a pour objectif de se promener dans certaines écoles là, pour peut-être aller parler de ce métier-là qui est encore méconnu. Et puis, ma conjointe et moi, quand on a le temps, bien sûr, les deux, on enseigne... c'est peut-être à raison d'un cours par année au Cégep Limoilou. Donc, en enseignant au Cégep, ça nous ouvre un peu les portes pour peut-être aller cogner aux bonnes places pour partir des projets qui pourraient venir chercher des gens dans des communautés puis les encourager à aller au Cégep dans ces milieux-là.
Avec l'Institut Kiona, par exemple.
Ben c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est assez modeste pour l'instant ce qu'on réussit à faire, mais j'ai vraiment espoir qu'à long terme, on va être capable d'avoir un réel impact là-dessus. Là.
Mais Alexis... Des fois, vous nous contez un mensonge parce que vous nous dites que vous vous occupez de choses très sérieuses, mais vous développez vraiment un jeu vidéo qui s'appelle Two Falls. Ha ha!
Absolument! Oui. Ça, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet. C'est tout nouveau que ça a été annoncé. Dans le fond, nous, on travaille sur un projet de jeu avec une entreprise de Montréal qui s'appelle Affordant. Et puis, nous, on était un peu réticents au départ quand Affordant nous a contactés, étant donné que les gens de cette entreprise-là, ce n'est pas des gens des communautés des Premières Nations. Donc là, on se retrouvait un peu à marcher sur des zones, on n'était pas sûr pour le projet, mais on s'est rapidement rendu compte que eux, leur but était de raconter une histoire, mais vraiment dans le respect de...
Ils ont un comité éthique pour ça faire? Comment ils font pour s'assurer que ça soit bien représenté, les réalités des Premières Nations?
Premièrement, dans le fond, ce qu'ils ont fait en premier lieu, quand ils ont commencé à monter leur équipe de développement, ils ont contacté des créateurs des Premières Nations. Donc, nous, ils nous ont contactés rapidement. Ils ont contacté ma sœur, entre autres, qui fait son nom d'artiste, c'est Eati, mais elle a fait de la musique. Donc, elle fait de la musique sur le projet. Leur directrice artistique qu'ils ont engagée, c'est quelqu'un des Premières Nations. Par la suite, ils ont contacté Mme Isabelle Picard, qui fait la scénarisation du jeu. Donc, ils ont vraiment été s'équiper, entre guillemets, de bonnes ressources qui vont aider à ce que la représentation du jeu soit faite dans le respect le plus total. Puis là, en ce moment, ils sont en train de créer ce qu'ils appellent un conseil des aînés, c'est-à-dire qu'ils vont aller présenter ce projet-là à certains aînés dans des communautés pour s'assurer que tout est fait de façon respectueuse. Donc moi, quand j'ai vu comment ils travaillaient, ça m'a tout de suite allumé.
J'ai vu des images, Alexis, des personnages qui ont été dessinés dans ce jeu-là. Ça va faire des vedettes internationales. C'est des beautés. Les filles comme les gars sont magnifiques dans la forêt, là.
Mais merci beaucoup. C'est bien apprécié. J'ai eu la chance de créer les personnages avec la directrice artistique Tara Miller sur ce projet-là. Donc, je suis vraiment honoré par votre compliment.
Ben écoute, bravo. Puis ben bravo pour tout ce que vous faites de concret, pratique dans la société et pour les Autochtones. Mais on a hâte de voir le jeu, nous, le Two Falls.
Moi, j'ai hâte d'y jouer.
Merci, Alexis. Salut.
Génial. Merci.
Tiens, Wack.
Bye-bye.
C'était la pièce Stadium Powwow de Hallucination avec les groupes de tambour traditionnels Black Bear.
C'est Hallucination, très typique, hein?
Oui, Hallucination qu'on appelait avant Tribe Called Red.
Ben, je ne savais pas. Cette émission, on vous le fait remarquer, est construite comme une grande émission média internationale, nationale. On a une section nouvelle, une section affaires publiques. Robert Blondin ici pour la section nouvelle. Et en face de moi, Alexis Wawondonowat pour la section affaires publiques.
Commentateur.
Dit, je lis une nouvelle, puis lui, il commente. Ça revient au même. Alors, des futures éducatrices autochtones commencent une formation à Saguenay. La formation a été conçue par le Cégep de Saint-Félicien pour répondre à la fois aux besoins des étudiants et à ceux des communautés.
Étant éducateur à petite enfance de formation, dans un genre de formation du même type, c'est important pour les communautés. On le sait qu'il y a des pénuries en plus dans le domaine des CPE. Espérons maintenant que le gouvernement fasse des offres intéressantes aux éducatrices.
Ah, mais tu vas pas t'embarquer là-dedans.
C'est un métier qui manque de considération par rapport à tout ce qu'il faut de un comme étude. Après ça, d'implication intellectuelle, d'implication émotive, puis d'implication physique. C'est pas facile d'être éducatrice à la petite enfance.
Mais ça, le gouvernement s'est assez bien rendu, non? Là, c'est pour le personnel de soutien, le problème. Là.
Ouais, ben ça dépend pour qui, là. Mais espérons que les choses se règlent rapidement parce que les CPE, les services de garde, c'est quand même un maillon important de l'éducation qu'on reconnaît pas assez. J'espère que...
Il y a rien qu'à voir à quel point la société est complètement bouleversée quand c'est plus là, hein?
C'est ça.
Ça donne toute l'importance. Alors, une autre nouvelle, Alexis. Lancement de deux dictionnaires en langue atikamekw.
Mm-hmm.
Ça, je trouve ça important. Les écoles des communautés atikamekw se serviront de ces dictionnaires pour valoriser l'utilisation de la langue atikamekw auprès de leurs élèves pour que cette langue soit désormais conservée par écrit, qu'on ait des références. Ça devrait se faire dans toutes les langues autochtones. Hein?
Ça devrait se faire dans toutes les langues autochtones. La langue atikamekw est en ce moment la langue autochtone la plus vivante au Canada.
Ah bon?
Donc, c'est important pour eux qu'ils puissent préserver qu'est-ce qu'ils ont déjà. Ils sont privilégiés de pouvoir avoir pu conserver leur langue à ce point-là. Donc, un projet comme ça va juste faire en sorte qu'on va encore entendre parler l'atikamekw dans 100 ans, je souhaite.
L'objectif du financement pour soutenir les élèves autochtones, c'est important, tout au long de leur parcours scolaire d'ailleurs, à l'intérieur, à l'extérieur des communautés autochtones, mais également d'améliorer les contenus qui traitent des Autochtones dans le cursus scolaire québécois. Donc, on se préoccupe d'investir dans ce domaine-là.
J'imagine qu'on parle ici de l'annonce de 19,4 millions, 0,5 millions qui s'est faite dernièrement. Oui, donc, on parle de mesures physiques, donc du matériel, de mesures de soutien, d'engager des gens. Encore là, je vais parler de mon expérience. J'ai déjà été technicien en travail social dans deux écoles
primaires.
Est-ce
que quelque chose t'as jamais fait?
J'ai eu beaucoup de vie, moi.
Ouais. On se ressemble.
Dans le passé, puis j'ai vu à quel point c'était important pour les jeunes d'avoir quelqu'un qui d'Autochtone qui leur ressemble. J'ai eu des témoignages des dizaines d'années plus tard qui m'ont dit que mon passage dans la vie de beaucoup de jeunes les avait influencés à persévérer. Puis, on le sait, là, on l'a dit lors de cette annonce-là, il y a plus de 50% des jeunes autochtones qui vont dans le système d'éducation québécois. Je trouvais qu'il y avait un absent, par exemple, dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les langues autochtones dans les écoles québécoises?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Même pas l'initiation, le montrer, même à travers la musique, on pourrait le faire à travers la musique.
Il y aurait plein de façons de faire.
On le fait pas.
On le fait pas.
On garde ça pour les Premières Nations, pas pour les Blancs, là.
Ouais, mais encore là, on apprend le mandarin, l'espagnol, ça serait intéressant aussi que les personnes non autochtones puissent avoir au moins des bases, être capable de dire « Kwe, Miigwech »
en Abitibi. Dire à des jeunes, si t'apprends en atikamekw, tu vas pouvoir faire un disque en atikamekw. On va le faire tout de suite, il va apprendre vite. Ça sera pas long. Alors, la Première Nation Mamalili Kula protège une zone au nord de l'île de Vancouver. On s'en va dans l'ouest complètement, mais c'est tellement beau l'île de Vancouver. Mais il y a souvent des problèmes de relations autochtones et non autochtones.
Mais je n'essaie de pas être aussi efficace que par ici, fait qu'il y en a plus des autochtones par là-bas.
Ah oui, il y a ça. Il y a ça qui dit. Alors donc, on veut absolument développer et la gestion, la restauration des terres, des eaux traditionnelles dans une zone de 104 km² quand même.
Oui, puis les grands arbres, les côtes majestueuses. Je me suis déjà perdu dans une forêt dans le coin de Tofino, dans une autre vie dans ma jeunesse.
Ah oui?
Puis j'avais justement pu voir toute la beauté de cette forêt-là. Donc, je pense, oui, c'est important de préserver ces paysages majestueux-là.
Et les rivages sur le Pacifique sont tellement magnifiques à visiter. Alors, on s'en va dans l'Arctique. On va monter au nord. Mm-hmm. L'Arctique pourrait connaître plus de pluie que de neige d'ici 30 ans. On s'en doutait un peu. Une étude, la pluie pourrait tomber plus souvent que la neige dans certaines régions de l'Arctique. On sait bien pourquoi.
Ben, les changements climatiques.
Ben oui.
C'est toujours les Autochtones qui payent en premier avec les changements climatiques.
Particulièrement dans le nord.
Particulièrement dans le nord. Puis bientôt, ça vient tout avec les composantes géostratégiques qui viennent avec ça, où les Américains commencent à passer des bateaux dans les eaux soi-disant canadiennes pour montrer leur souveraineté puis qui n'ont pas besoin de demander la permission. Les Russes qui viennent planter le petit bateau dans le fond de l'eau pour dire que le plateau continental leur appartient. Qu'est-ce qu'on fait des peuples autochtones dans tout ça?
Ben, il ne va pas être là, voyons donc.
Ouais, mais on se rappelle, on en a déjà parlé à l'émission, comment on avait transplanté des peuples inuits encore plus au nord, juste encore une fois pour affirmer la souveraineté canadienne.
Ah, oh, mon Dieu, oui. Et ça va coûter cher à ce peuple-là aussi, parce qu'ils ont beaucoup souffert.
Ils en ont beaucoup souffert, oui.
Il y a une autre nouvelle, ça me tente même pas d'en parler parce que c'est encore au Vatican. Ils vont-tu s'excuser? Ils vont-tu pas s'excuser? Ils sont-tu déjà excusés? Ils vont-tu... Regarde, moi, je veux même plus en entendre parler. Tant qu'à moi, là...
On pourrait inviter aussi Jimmy Papati pour en parler, mais tu le sais comme moi que personnellement, je pense que oui, ça peut avoir des effets symboliques pour les personnes qui sont catholiques, entre autres dans les communautés, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont catholiques. Mais le vrai pouvoir de changer les choses se retrouve plus à l'Église.
Bon, on pourrait résumer ça en disant « Arrêtez donc d'en parler, puis faites donc quelque chose. »
Un gros chèque.
Malheureux Saint-Maurice, pour tous tes voyageurs, qui rend mon âme en peine et mon corps moribond. Quel papier coûte cher dans le Bas-Canada, surtout toi, rivière, de ma blonde à mes
Des qui jouent à l'Ukraine, les barrages, les cascades. CB.
Même si la Saint-Maurice, ça fait pratiquement 150 ans qu'il y a des bio et de la pitoune dessus.
Et j'aime ta CB, là. La rivière Saint-Maurice, la Stapswan CB, c'est une grande rivière.
Là, ils ont dit, la drave, c'est fini. Le monde, t'as content? Les yachts pouvaient passer, ça arrivait tout de tabou.
Ils n'ont pas pris soin, ils l'ont un peu malmené.
Même il y en avait un qui disait qu'à tous les ans, ça publiait à 3 pieds de capitaine au fond de la rivière.
Au moins aujourd'hui, on peut retourner sur la rivière avec nos canots, comme faisaient nos grands-parents dans le temps.
Je suis venu au monde sur le bord de la rivière. C'était ma vie.
De notre territoire.
Et c'est beau.
Oui, c'était les Tireux de Roche, un groupe québécois avec une artiste atikamekw qu'on a cherché à savoir c'était qui était la voix atikamekw dans cette chanson-là. Tapisquan Sipi, c'était le nom de la chanson. Tapisquan Sipi, c'est le nom en atikamekw de la rivière Saint-Maurice.
Ah, c'est ça. J'aime mieux ce nom-là que Saint-Maurice, moi.
Ouais, ben, ça serait intéressant, moi, je pense que on fasse comme on peut voir en Irlande ou en Bretagne. En Irlande ou en Bretagne, quand on se promène dans ces coins-là, on voit le nom en français, mettons en Bretagne, et ensuite on le voit en breton. Donc, pour des endroits comme ça, je pense que dans le parc, dans la véranderie, un peu partout sur le territoire, comme quand on traverse la rivière Saint-François, ça serait intéressant de savoir aussi qu'en Abenaki, dans le vrai nom de la rivière, c'est Alcigontekuk. Hey,
ça sera une belle bâtard à livrer. Culturellement intéressante, socialement intéressante.
Puis on c'est pas l'idée d'éliminer le patrimoine québécois ou on ajoute au patrimoine.
Bon ben on s'en vient bien. Ça fait des décennies, on parle des problèmes des Autochtones avec raison. On va encore en parler parce qu'il faudra bien en parler, mais au moins on commence à accumuler, à additionner des solutions.
Oui.
Hein? C'est quand même intéressant, encourageant, je trouve.
Ben oui, ben c'est sûr que tout n'est pas noir dans la vie. Il faut pouvoir voir l'espoir pour pouvoir continuer.
Voilà. À la régie avec nous, Nicolas Vartman.
À la recherche, Guérin, à la Claire recherche. Coordinateur de l'émission Louis Garon.
Alexis Wabonadourat ici avec Robert Blondin. La semaine prochaine.
À la semaine prochaine.